Chapitre 6. Les Fujita habitaient une maison de taille modeste dans l'arrondissement d'Edogawa, à l'est de Tokyo. La chambre de Megumi se situait au premier étage. De sa fenêtre, elle voyait surtout des toits et des systèmes de climatisation. Mais un très beau chêne avait poussé juste devant chez eux, et au printemps, ses feuilles venaient chatouiller les joues de Megumi quand elle s'accoudait à son balcon. Quand la famille fut de retour à la maison, après un vol qui parut interminable à Megumi, celle-ci se jeta à plat ventre sur son lit, très tentée de s'endormir immédiatement. Mais l'envie de savoir si Horatio-san était toujours dans sa boîte prit le pas sur la fatigue. Elle s'enferma dans sa chambre, posa la boîte à biscuits sur son lit et souleva cérémonieusement le couvercle. Le cœur battant, elle attendit que la flamme orange se forme. Une seconde, deux secondes, c'était peu et déjà trop long. Finalement, à la cinquième, Horatio se manifesta. Soulagée, Megumi se laissa tomber sur le dos à même son plancher. « Ah, Horatio-san, je me suis fait tellement de soucis. Comment s'est passé votre voyage ?»« Bien, je suppose, même si je n'en ai rien vu. Dommage, voilà longtemps que je rêvais de prendre l'avion. » Megumi se redressa pour constater que le fantôme avait déjà repris une silhouette humaine. « Je n'ai jamais eu aussi sommeil de ma vie. Vous avez de la chance de ne pas dormir. » Enfin, de la chance, je ne sais pas. Elle abrégea son monologue. Je vais vous ranger sous ma table de nuit, façon de parler, hein. Et demain, j'aimerais tellement vous faire découvrir un peu la ville. J'ai eu une idée pendant tout ce temps passé dans l'avion. Attends, Megumi, je peux te demander quelque chose, bien sûr. Approche-moi plutôt de la fenêtre. J'aimerais sentir un peu de ce nouvel endroit. « Vous savez, ce n'est pas la plus belle vue de la ville. Ce sera déjà très dépaysant pour moi, ne t'inquiète pas. Je peux parfaitement refermer le couvercle de la boîte tout seul, comme tu sais. » En ce cas, Megumi alla poser la boîte sous la fenêtre et le fantôme se changea en un nuage aux contours indistincts. Sans doute ne voulait-il pas attirer l'attention des voisins. Il resta ainsi à scruter l'immensité de cette ville inconnue pendant plus de 3 heures. Après quoi, il regagna sa demeure de fer-blanc. Le lendemain matin, Megumi eut bien du mal à sortir du lit. Quand sa mère l'appela pour la cinquième fois, elle poussa un cri et se laissa quasiment rouler jusqu'à la cuisine. Son père était en train de siroter son thé en lisant un journal en costume-cravate. « Pa, tu vas travailler ?» s'étonna Megumi. « Eh oui, il y a beaucoup de travail en retard. Il n'est pas raisonnable de prendre davantage de congés. Mais tu avais encore droit à 2 jours. » « Je sais, mais comme je te l'ai dit, le devoir m'appelle. Il y a des modifications urgentes à faire sur les nouvelles cartouches de jeu et sur la console destinée aux Américains. Ta mère est déjà sortie faire les courses, sois prudente en son absence. »« Tu arriveras à te débrouiller toute seule ?»« Bien sûr. Alors dans ce cas, » ajouta-t-il en avalant une dernière gorgée, « j'y vais. Ah, attends. Oui, pas. J'aimerais ton avis sur quelque chose. Tu te rappelles que je voulais vous parler d'une idée que j'ai eue à Dublin ?»« Ah, oui !» Comme tu ne te décidais pas à descendre, j'en ai parlé à ta mère, et j'ai oublié de te poser la question. Tant mieux parce que j'y ai repensé et ça n'allait pas. Mais là, je crois que je tiens quelque chose. Regarde. Il tendit un doigt vers l'évier de la cuisine. Megumi plissa les yeux, mais ne vit rien d'inhabituel. Pas ? Il y a un problème avec l'évier ? Non, fit Monsieur Fujita d'un air triomphal. Plus maintenant. Mais ce matin, il était bouché, et j'ai passé un moment à le nettoyer. Megumi rougit. « Oh, mais je te jure que je ne t'accuse pas de l'avoir bouché. Seulement, en le nettoyant, je me disais, si seulement j'étais assez petit pour rentrer dans les canalisations et retirer ce qui coince. » La fillette, perplexe, attendit la suite. « Et donc, j'ai imaginé un jeu où un petit personnage se promènerait dans les tuyaux, comme ça. Peut-être même qu'il y découvrirait un monde un peu fou. Un peu fou, pas ?» Monsieur Fujita reprit un air sévère qui ne collait guère avec ses propos. « Eh bien, je ne sais pas, cela pourrait être un monde de contes de fées. Dans des tuyaux ? Pourquoi pas ?» Megumi se représentait mal la chose et voyait que son père attendait un peu plus d'enthousiasme de sa part, ou au moins d'intérêt. Alors elle demanda « Ton petit personnage, ce serait quoi ? Un animal ?» Monsieur Fujita haussa les épaules. « Mais non !» Un plombier, bien sûr. Qui d'autre irait dans des tuyaux? Je l'imagine bien sautiller d'un obstacle à un autre avec une salopette et une casquette. Ah, très bonne idée, oui, fit Megumi en frappant des mains. Son père en eut l'air à la fois rassuré et satisfait. Si tu crois que c'est une bonne idée, j'en parlerai à mon collègue Shigeru. Ah, l'heure tourne. À ce soir! Quelques secondes plus tard, Monsieur Fujita s'éloignait de la maison d'un pas rapide. Megumi s'empressa d'aller chercher la boîte d'Horatio, puis, de retour dans la cuisine, la posa par terre et l'ouvrit. Le fantôme, qui ne sentait sans doute pas d'autre présence que celle de Megumi, prit son apparence la plus réaliste. Voulez-vous m'aider à préparer mon petit déjeuner? Demanda Megumi avec les yeux pétillants. Que dois-je faire? Elle ouvrit le couvercle d'un cuiseur dont s'échappa une douce odeur de riz qui imprégna toute la cuisine. Elle en remplit un bol, puis alla chercher un œuf dans le réfrigérateur. Pourriez-vous mélanger l'œuf au riz, Horatio-san? D'habitude, on utilise des baguettes, mais je suis sûre que vous ferez aussi bien sans. Je peux le faire, mais tu vas manger ça pour le petit déjeuner? Oh, après tout, les Anglais font peut-être encore pire parfois. C'est d'accord. Et pendant que Megumi disposait sur un plateau de petites portions de légumes marinés, le bol contenant le riz et l'œuf se mit à s'agiter tout seul. Megumi applaudit en constatant le prodige, puis alla réchauffer une tranche de saumon grillé qui traînait encore dans la poêle. Tout était prêt. Elle s'installa à table et commença à manger avec appétit. Je n'imaginais pas un intérieur japonais comme cela, commença Horatio. Ah? Oui, j'avais l'image de murs en papier, de portes qui coulissent. Ah, je comprends. Mais les choses ont beaucoup changé depuis votre époque. Enfin, on a quand même une porte coulissante dans le salon. On appelle ça un shoji. Ne t'inquiète pas, je suis très dépaysée. Megumi constata qu'elle n'avait jamais aussi bien vu les traits du visage d'Horatio. À certains moments, elle avait presque l'impression qu'il était un individu de chair et de sang. La petite fille but une gorgée de thé vert et se mit à rêvasser. La mère de Megumi revint quelques minutes plus tard, les bras chargés de provisions. Horatio eut juste le temps de regagner son réceptacle et Megumi de le placer à un endroit où il n'attirerait pas l'attention. Bonjour Megumi, il faut absolument que je te montre quelque chose, s'exclama Madame Fujita. Je range les courses, attends un peu. Elle s'affaira un moment, disparut dans une autre pièce, puis revint en tenant un coffret en bois. Elle le posa devant Megumi et en sortit une liasse de feuilles jaunies qu'elle étala du plat de la main. Megumi remarqua immédiatement qu'il s'agissait de lettres rédigées en anglais d'une écriture élégante. Qu'est-ce donc, maman? Ce sont les lettres que ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère envoyait à son fils Patrick après qu'il s'était installé au Japon. Nous n'avons pas beaucoup de souvenirs de la branche irlandaise, malheureusement. Épouser un gaijin n'était pas très bien vu à l'époque. Oh! Megumi s'assit près de sa mère et, discrètement, entr'ouvrit le couvercle de la boîte de shortbreads. Horatio se devait de voir tout cela. Vois-tu, expliqua Madame Fujita, il y a des choses très poignantes. Notre aïeule parle de son mari, Horatio, à son fils. Elle lui raconte quel homme intelligent il était. Les lettres se soulevèrent comme si le vent avait soufflé sur elles. Oh, un courant d'air, dit Madame Fujita. Je n'ai pas dû bien fermer la fenêtre. Tiens, regarde ça. Elle déplia une feuille, dévoilant un dessin à la plume. C'était le visage d'un jeune homme aux traits fins et à l'air doux. Horatio Hearn, dessiné par son épouse Melinda. Je ne sais pas s'il existe un autre portrait de lui. Megumi contempla longuement le portrait, examinant chaque détail. Il y a de l'amour dans ce dessin, ajouta Madame Fujita. Cela se voit, beaucoup d'amour. Une goutte tomba sur un coin de la feuille, formant une auréole. Madame Fujita leva la tête. Tiens, il y a une fuite à l'étage. Bizarre, je ne vois rien. C'est étrange. Mais Megumi, elle, savait, et son cœur se serra. La mère et la fille continuèrent un moment à parcourir les feuillets. Finalement, Madame Fujita en vint à la dernière liasse de lettres. Cette fois, l'écriture, bien que féminine, semblait différente. Je n'ai jamais bien compris qui était cette autre femme qui écrivait à notre aïeul. Quoi? Une autre femme a écrit à Patrick? Madame Fujita étala quelques feuillets devant elle. Oui, elle lui écrivait comme s'il était son fils ou son petit frère. C'est étrange. Ils avaient l'air d'avoir un lien très fort. Megumi eut une moue dubitative. Comment s'appelait-elle? Elle signait Cathy. Un bruit métallique fit sursauter mère et fille. Le couvercle de la boîte de shortbread venait de claquer. Oh, j'ai fait un faux mouvement, annonça nerveusement Megumi. Tu es toujours avec ta boîte? Megumi fit comme si elle n'avait pas entendu la question et insista. On connaît son nom de famille à cette Cathy? Oui, bien sûr, c'est indiqué sur chaque lettre. C'était là, regarde. Hogarth. Le couvercle de métal tomba bruyamment sur le sol. Paniqué à l'idée qu'Horatio ne s'échappe, Megumi se rua sur la boîte. Mais déjà, les feuillets se soulevaient au-dessus de la table. Megumi s'en empara, malgré la résistance que le fantôme sembla lui opposer, et d'un ton bien trop enjoué pour être honnête, s'écria: Mama, j'aimerais bien lire ces lettres au calme, ça a l'air passionnant. Je peux les emporter dans ma chambre? Oui, mais que vient-il de se passer? Quoi, mais il ne s'est rien passé, Mama? Mais tu as bien vu que. Je vais dans ma chambre, Mama, je vais lire tout ça. Megumi, lettres et boîte sous le bras, monta les marches quatre à quatre sans tenir compte des protestations de sa mère. Une fois en sécurité dans sa chambre, Megumi libéra Horatio qui ne se fit pas prier. Horatio-san! Vous n'avez pas été prudent! Protesta la jeune fille. Incapable de garder une forme précise, le fantôme ressemblait à un morceau d'étoffe chahuté par le vent. Megumi, Cathy Hogarth, ce nom ne te dit rien? Megumi fronça les sourcils et finit par s'exclamer. Ah, oh, ce n'est pas. Bien sûr que si, Cathy est le diminutif de Catherine, Catherine Hogarth, et la personne que j'ai. Il s'arrêta. Megumi prit un air triste. Horatio-san, ce n'est pas votre faute, voyons. Vous avez fait tout ce que vous pouviez en votre temps. Avec la médecine d'aujourd'hui, vous auriez sûrement sauvé cette pauvre jeune femme. Horatio virevolta à travers la pièce. Oui, mais justement, là est le mystère. Comment cette Catherine Hogarth peut-elle avoir écrit à mon fils, au Japon, si elle est morte quelques jours avant moi? Mais oui, c'est vrai, c'est très étrange. Ce n'est peut-être pas la même Catherine. Il faudrait en savoir plus. Cherchons dans les lettres. Megumi étala les feuillets sur son lit et se plongea dans la lecture. Hélas, l'écriture d'un autre temps n'était guère aisée à déchiffrer. Horatio s'en mêla, et les feuilles se mirent à tourner dans les airs. Très vite, le fantôme comprit que Catherine Hogarth considérait Patrick comme une sorte de neveu. À chaque fin de lettre, elle lui demandait s'il avait besoin de quoi que ce soit. Elle parlait de la vie à Dublin, de son quotidien, mais rien ne permettait de réellement comprendre qui elle était et comment s'était formé le lien qui l'unissait à Horatio. La fillette pouvait voir combien le fantôme était ému par cette découverte, à tel point qu'il était incapable de reprendre un semblant de silhouette humaine. Horatio-san, je suis sûre que l'explication existe quelque part. Je vais chercher et je vous promets que je vais trouver. Comment comptes-tu faire? Si mon aïeul était si connu, enfin, je veux dire, votre fils, Horatio-san, il y a peut-être des renseignements à la bibliothèque. Mais si même ta mère n'en sait pas plus. Oh, je ne sais pas si elle a tous les éléments en main. Il faut en avoir le cœur net. Ce serait extraordinaire, s'enthousiasma le fantôme. Mais je ne veux pas que cela te prenne trop de temps, tu. Megumi l'interrompit. Mais bien sûr que non, Horatio-san. Je suis ravie de vous aider, au contraire. Elle regarda sa montre, puis déclara. Il est trop tard pour aujourd'hui, mais nous irons ensemble demain. Ensemble? Megumi prit un air malicieux. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. En attendant, vous voulez faire quelque chose? Un jeu? Vous savez jouer au go? Non, qu'est-ce donc? Un jeu dont raffole mon père, mais je ne suis pas très forte. Sinon, on peut jouer aux échecs, c'est plus facile. Pourquoi pas? Essayons si tu as un jeu. Je n'ai pas fait une partie depuis tellement longtemps que tu as toutes tes chances. Megumi fouilla dans un placard et en sortit un plateau et des pions qu'elle installa sur les lattes de son plancher. C'est ainsi que commença sa partie contre un adversaire qui n'était pas vraiment là. Quand après une bonne heure, Madame Fujita passa la tête dans la chambre pour parler du dîner, elle ne remarqua même pas la lumière orange qui dansait du côté des pions noirs. Elle se demanda seulement pourquoi Megumi disputait une partie d'échecs contre une boîte de shortbreads et en fut tellement troublée qu'elle passa son chemin sans rien dire.